est blanche.
40 nuances de Next.
Les champions de la tech française, comme vous ne les avez jamais entendus, animés par Olivier Mathieu, Thomas Benzazon et Solène Etienne.
Les champions de la tech française. François, t'es pas entrepreneur ?
Je suis pas entrepreneur, mais j'ai été entrepreneur, car on le sait pas beaucoup, mais j'ai notamment créé une start-up qui continue d'exister, qui s'appelle Voilà, c'était pendant le Covid, et qui avait pour vocation à proposer de la virtualisation des événements. Voilà, donc j'ai quand même cette petite fibre, mais je pense que moi, ce que j'aime, c'est aider les entrepreneurs, et c'est bien l'objectif de VivaTech, de leur permettre d'exprimer leur talent et de faire du business, voilà.
Finalement, je vais me concentrer sur ta première aventure d'entrepreneur et on va oublier le sujet de notre échange du jour, parce que tu es François Bitouzet, directeur général de VivaTech. VivaTechnologie, si on veut dire les choses en entier, mais VivaTech, il y a un côté un peu McDo, c'est pour les intimes.
C'est pour les intimes et j'espère qu'avec les gens de la tech qui nous écoutent, on est intime, oui.
Et là, vous sortez un baromètre sur la confiance des dirigeants d'entreprise dans la tech, pas que en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis aussi. Et on va, je crois, c'est encore sous embargo, on va livrer maintenant, et je le diffuserai seulement après l'embargo. Hein. Je vois tous les yeux et les oreilles qui se dressent dans le studio.
Tout va bien.
Mais on va livrer les apprentissages de ce baromètre mené avec Wavestone et Opinionway.
Exactement.
Alors, c'est quoi le grand apprentissage ? Bon, au départ, je ne te cache pas que j'ai été peu étonné. Les entrepreneurs ont confiance dans la tech.
Eh oui, ils ont confiance dans la tech. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'on est dans un moment où ils n'ont pas de visibilité, où d'un point de vue économique, c'est hyper dur. La géopolitique du monde est en train de s'écrouler. Et aujourd'hui, ils ont une confiance dans la tech qui est à un niveau, mais record, 86 sur 100. Donc, ce que je veux dire, c'est quand même énorme. Et nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est quand même de se dire qu'il y a un an, ils n'avaient pas du tout ce niveau de confiance. Donc l'année 2023, et c'est ça qui est
vraiment
très
intéressant.
Elle est charnière, exactement. Et donc on a vu arriver des nouveautés. L'IA, hein, voilà, il n'y a pas de suspense. C'est très intéressant de voir à quel point ils se sont appropriés cette technologie, à quel point ils y croient. Donc pour eux, c'est pas, tu vois, c'est pas du buzz, c'est pas un truc de
c'est mode. Pas un effet de mode.
C'est pas un effet de mode du tout. Est-ce et aujourd'hui, voilà, ils disent, on rentre dans une nouvelle phase de tech et ils en attendent beaucoup et ils sont hyper optimistes. C'est bien.
Est-ce qu'avoir confiance dans la tech, c'est avoir confiance en l'avenir ?
C'est forcément avoir confiance dans l'avenir parce que c'est se dire que demain, avec des nouveaux outils digitaux et tech, on va pouvoir faire les choses mieux. Donc oui, je crois que c'est vraiment de l'optimisme, mais c'est pas de la candeur. Et c'est ça qui est bien avec les dirigeants d'entreprise. Ils sont pas candides.
Tu connais le génie qui offre trois vœux. Moi, j'offre seulement trois chiffres. Le gros chiffre de l'étude, c'est quoi ?
Alors moi, mon préféré, c'est 85%. C'est le pourcentage des dirigeants d'entreprise, donc en Europe et aux États-Unis, qui ont d'ores et déjà décidé d'investir plus dans la tech en 2024. Donc, c'est génial parce que ça veut dire que de manière massive, il va y avoir un afflux de business pour l'écosystème. Pour, évidemment, les grands de la tech, hein, les champions de la tech qui nous écoutent.
Et oui, a priori, capteront.
Mais aussi toutes les startups. Voilà. Donc, aujourd'hui, à un moment où parfois, ça s'est ralenti, waouh, normalement, on va avoir une belle année 2024 pour tous les acteurs de la tech. Ça, c'est super important.
Deuxième chiffre, celui qui t'a étonné.
Celui qui m'a étonné, c'est le... On leur a demandé quel est leur rapport avec leur gouvernement respectif par rapport à la tech. Et à 63%, ils disent « le gouvernement fait bien son travail ». Et ce que je trouve intéressant, si tu veux, c'est que je pense qu'il y a 10 ou 15 ans, bon, ça n'aurait pas du tout été cette réponse. Et ce que ça raconte aujourd'hui de la maturité des écosystèmes, c'est que voilà, privé-public, on a trouvé une façon de s'entendre, de travailler ensemble. Et je trouve que ça fait partie de notre environnement aujourd'hui. Et c'est très, très, très intéressant.
Est-ce que ça, tu penses que c'est parce que la tech est intimement liée à notre quotidien que de fait, les pouvoirs publics ne peuvent pas mettre ça de côté, ne pas s'y intéresser ?
Exactement. Et je pense qu'à l'inverse, le monde du business ne peut pas faire comme si la tech n'avait pas aussi des implications sociétales, environnementales et éthiques. Et tu veux, ce qu'on voit en ce moment, c'est que autour notamment de l'intelligence artificielle, les gens y comprennent qu'il va y avoir du business, des opportunités, mais ils ont aussi le côté, il y a des responsabilités. Et c'est Spider-Man, tu sais, c'est with great powers come great responsibilities. Et c'est ça aujourd'hui. Donc, ils ont bien changé, les dirigeants d'entreprise, c'est pas mal.
Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Alors justement, je pense que c'est très lié, le chiffre qui fait peur.
Ben, celui qui fait peur, c'est que pour 77% des dirigeants d'entreprise, ils ont peur eux-mêmes de la question des fake news. Donc, tu vois, quand je disais qu'ils sont pas candides, OK, ils ont bien compris qu'il y allait avoir des changements, que ça va être bien pour eux. Mais derrière, ils voient bien les limites et ils comprennent aussi que...
En tant que citoyen.
Mais citoyen qui prend des décisions dans une entreprise, il y a des choses à faire, il y a des responsabilités à assumer. Et je trouve, voilà, ça raconte une question de maturité que moi, en tout cas, je trouve très... déjà très excitante, parce que ça veut dire qu'il y a des discussions, il y a des débats, et je peux te dire qu'il y a 10 ou 15 ans, quand le digital a explosé, les réseaux sociaux, le téléphone mobile, le cloud, etc., on s'est pas posé de questions, on a pris ça comme ça, juste à bras le corps, en disant ça va être génial, peut-être qu'on aurait pu faire les choses un peu différemment, et aujourd'hui, voilà, cette maturité, peut-être que tout à l'heure tu disais, j'étais peut-être pas très surpris, mais moi je trouve qu'elle est, c'est bien, c'est intéressant, voilà.
Donc, ça veut dire qu'il y aura un tome 2 à ce baromètre.
Mais j'espère qu'il y aura un tome 2, il y aura un tome 3, et puis à la fin, vous aurez toute la bibliothèque et ça dessinera le logo Vivatech, tu vois, sur la tranche.
Je reste sur le chiffre qui fait peur, lié aux impacts que inévitablement l'IA et la tech plus largement peuvent avoir. Est-ce qu'il y a des nuances d'un pays à l'autre ?
Alors, oui, il y a des nuances. Alors, je te cache pas que la France, on a toujours notre particularisme dans cette étude. On n'est pas très loin de la moyenne, mais on a toujours un petit pas de côté. Et sur ce qui nous fait le plus peur, comparé aux autres pays, c'est vraiment l'impact sur l'environnement du digital. C'est-à-dire que nos dirigeants d'entreprise, ils disent, attention, est-ce qu'on est bien certain que ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui, ça ne va pas avoir un impact caché? Est-ce que ça va pas précipiter les enjeux climatiques? Là-dessus, je pense que c'est vraiment la spécificité française, beaucoup plus haut.
À questionner le bénéfice-risque aussi,
mais au niveau environnemental. Ouais, c'est vraiment, les autres pays sont plutôt sur des questions sociétales. Tu vois, on parle des fake news, on parle de la question de la vie privée, l'éthique, genre de choses.
Tu mets quoi derrière l'éthique?
L'éthique, c'est la capacité des acteurs à jouer avec les mêmes règles et à jouer aussi avec quand même un petit peu quelques contrôles au niveau un peu plus que l'inconscient. Voilà.
On aurait pu croire qu'on avait préparé cet échange parce que c'est une super transition pour parler de l'IACT.
Eh bien, très bien. Dans l'IACT, moi, je suis très content que ça ait lieu. Voilà. Alors, je pense qu'on peut être d'accord, pas d'accord avec la lettre de l'IACT. Mais moi, ce que je trouve remarquable, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe, qui est toujours d'habitude à la traîne, et franchement, on se fout toujours de la gueule de l'Europe en disant, ouais, c'est après les Américains, les Asiatiques, etc. Cette fois-ci, on est au rendez-vous avec notre culture, voilà, c'est une culture réglementaire. Mais rappelez-vous RGPD, tout le monde s'est foutu de la gueule de l'Europe et RGPD. Et aujourd'hui, il y a des régulateurs, notamment aux États-Unis, qui disent « Ah ben nous, on aimerait bien le faire ». Donc, regardons ce que va faire cet IACT, laissons-lui un peu le temps d'arriver. Je pense que ce qui est intéressant aussi dans tout système, c'est qu'on peut ajuster. Et moi, au final, ce que j'aimerais, c'est que dans ces élections européennes qui arrive là dans quelques mois, les sujets de la tech, l'IA, mais en général, mais ce soit un sujet, parce que c'est ça la force de l'Europe, vraiment.
Alors, je veux pas doucher tes espoirs, mais je...
J'ai l'impression que je vois quand même l'inverse.
Il y a quand même peu de chance, mais pourquoi pas. Tu disais, on peut être pour, on peut être contre. Il y a aussi simplement, je connais pas, donc j'ai peur. C'est quoi les impacts que l'IACT va avoir sur les différents niveaux de granularité d'impact de l'IA dans nos business?
En fait, aujourd'hui, c'est quelque chose qui va cadrer et qui va permettre de dire, il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas franchir. Et ça, je pense que déjà, ce que c'est intéressant, c'est que c'est une grille de lecture. Et ça va changer les choses plutôt que de se dire, c'est le Far West. Et ensuite, effectivement, en fonction des secteurs, en fonction de la criticité, va y avoir des go, des no-go, et on va savoir que on est dans la réglementation européenne ou pas dans la réglementation européenne.
Pour certains, il faudra aller chercher un tampon.
Pour certains, il va falloir chercher un tampon, mais si on considère, et moi c'est ma position, que la tech, C'est une matière qui est stratégique, mais en mode Céveso. C'est comme le nucléaire. Et tout à l'heure, je te parlais de Great Powers, Great Responsibility. Si on prend la tech au sérieux, il faut aller aussi dans ce genre de démarche. Alors, est-ce que ça va trop loin, pas assez loin ? C'est pas à moi de le dire. Mais je pense que c'est intéressant. Tu vois, par exemple, sur la génétique, on laisse pas faire tout et n'importe quoi, mais on a quand même la possibilité de faire des choses. Donc, regardons, je pense que c'est
on
quelque
essaye,
chose.
On essaye, mais dans un cadre.
Et voilà. Mais par contre, et c'est là où peut-être l'AI Act est un peu faible aujourd'hui, c'est qu'il n'ouvre pas suffisamment la porte à des rendez-vous pour se dire « Allez, ça, on le tente et on se donne, comment dire, un droit de rendez-vous pour se dire « Bon, bah, finalement, on est allé trop loin, on va pouvoir rouvrir. Là, on n'avait pas vu venir le coup, etc. etc. » Et je pense que c'est cette question du dialogue qui ne passe pas forcément que par la Commission européenne qui manque aujourd'hui. Mais dont acte.
Donc, va falloir prévoir un peu de budget dans nos boîtes. Pour... Non, mais j'essaie de projeter pour mettre tout ça en place et se conformer aux attentes du règlement.
Oui, mais vu qu'on est au début...
C'est quand la mise en place?
Je ne saurais pas te dire. Vraiment, je ne l'ai pas en tête.
Eh bien, je vais aller faire des petites recherches et on le publiera, on le partagera. Je reviens sur notre étude. Tu disais les entrepreneurs ont soif d'IA, ils ont soif de tech au sens large. Comment nourrit cette faim? Parce qu'on a faim, mais il faut de la nourriture.
Oui, bah déjà, on nourrit avec des investissements. Et ça, c'est bien. Hein. Je te disais, 85%, ils disent, on est dans les starting blocks. Donc toi, pour une fois, ils ne regardent pas le train passer. Ils se disent, on se donne les moyens. Et surtout, on va le nourrir avec aujourd'hui, ce qui leur fait le plus défaut, c'est l'humain, en fait. Si tu veux, dans notre étude, on leur a posé la question, c'est quoi le plus gros obstacle? Et aujourd'hui, le plus gros obstacle, c'est les talents. C'est-à-dire qu'ils voient bien que il faut des data scientists, tu les as pas sur le marché tout de suite. Ils font des gens qui maîtrisent l'intelligence artificielle, tu les as pas, etc., etc. Donc, ce qui est génial, c'est que c'est l'humain qui va nourrir ces transformations. Et je pense que c'est intéressant aussi d'avoir ce retour des dirigeants d'entreprise, parce qu'aujourd'hui, on dit beaucoup la nouvelle révolution digitale qui passe par l'AI, elle va mettre tout le monde au chômage, on va vivre dans la matrice, ça va être horrible, etc., etc. C'est bien de se poser la question, mais aujourd'hui, les dirigeants d'entreprise, ils disent pas on va virer tout le monde, ils disent pas ça du tout. Ils disent on va créer de la valeur, on va la créer ensemble et on a besoin aujourd'hui de nos collaborateurs et d'autres pour le faire. Donc, on n'est pas du tout dans une logique de croissance en réduisant des coûts, en tout cas.
Donc, après les devs, les futurs divas seront les data scientists.
Il y aura toujours des divas dans la tech.
T'es dans 40 nuances de Next. Je sais plus si je l'ai dit en intro, mais Vivatech vient de devenir l'un de nos nouveaux partenaires aux côtés de Madines, La Tribune, France Digital et la French Tech. Donc, on aura le plaisir d'entendre ta voix et en tout cas d'entendre tes questions aux entrepreneurs qu'on reçoit à ce micro. Malgré tout, je vais pas te laisser filer sur cette info. On a quelques rubriques incontournables sur le format et je te propose de jouer le jeu si tu veux bien.
Ben c'est parti.
Ça y est, tu as les clés du pays. Tu es monté en grade. Qu'est-ce que tu fais?
C'est une très, très grosse montée en grade.
Grand pouvoir, grande responsabilité.
Grand pouvoir, grande responsabilité, voilà. Bon, déjà, je déclare la guerre à la connerie. Voilà, donc c'est un vrai programme.
J'ai eu peur. Il y a un moment, je me suis figé.
Rassure-toi, tout va bien. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses à faire là-dessus. Notamment, c'est quoi le rôle de l'éducation dans notre pays? C'est quoi le rôle de la culture? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je pense que je fais un petit travail sur qu'est-ce que c'est que la civilité. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que le vivre ensemble? C'est des sujets qui m'intéressent pas mal. Et j'ouvre des zones franches culturelles. Je crée des espèces de Dubaï, de la culture où vont s'épanouir notre cinéma, nos écrivains, nos chanteurs, nos artistes tech. Et je regarde ça passer et après on va voir si on passe à un niveau encore supérieur. Mais normalement on fait 2-3 trucs comme ça et ça devrait commencer à faire des choses intéressantes, je pense.
Donc on a un Dubaï de la culture, c'est-à-dire que certains influenceurs ne seront pas autorisés, n'auront pas de réduction d'impôts en venant dans ces zones franches.
Moi, je pense que c'est très bien que les anges de la télé-réalité, on les envoie à Dubaï, et nous, on récupère, tu vois, Steven Spielberg, Taylor Swift et tous les autres. C'est pas mal, c'est ça mon programme, c'est mon projet.
J'adore. Autre rubrique incontournable de 40 nuances de Next, la claque. Ça fait parfois mal, souvent ça enlève.
Ouais, tout à fait. Alors, c'est quoi moi, c'est quoi ma claque? Bon, j'en ai eu beaucoup, hein, comme pas mal de monde. Je me rappelle une claque qui était très forte quand j'étais directeur de la communication chez voyagesncf.com. J'avais fait, alors je vais vous raconter, c'est une anecdote, c'était pour une carte de vœux. Donc oui, une carte de vœux, mais qu'est-ce qu'il va nous raconter? J'avais fait un petit truc rigolo avec des petits chanteurs de la Croix de Bois qui chantaient des tweets, des conneries, etc. On balance ça sur les réseaux sociaux et je pense que mes 2 minutes après, mais horrible, backlash, on s'est fait mais pourrir, il y a même eu des émissions qui ont parlé, qui ont dit « Ah, il n'y a que des garçons, ça veut dire qu'ils sont, ils sont misogynes, il n'y avait pas d'enfants, par exemple, qui étaient handicapés, on a dit qu'on était handicapéphobes. » Enfin, c'était mais vraiment horrible, on était
donc,
obligé
de... Donc, tu as des insultes.
Horrible. On disait « Ouais... »
Et on te prête tous les défauts les plus horribles de la Terre.
Tous les défauts les plus... Mais d'ailleurs, vous pouvez retourner voir cette carte de vœux qui reste assez collector. Et je me rappelle très, très bien que le président de la SNCF, à l'époque, Guillaume Pépi, m'avait envoyé un email. Donc, un jour, je vois un email, Guillaume Pépi, je l'ouvre. Il y avait juste une ligne qui était « Monsieur, on ne joue pas avec ces codes. Point. Guillaume Pépi, président de la SNCF. » Alors, ça peut paraître anecdotique, non. Mais pour moi, ça a été quelque chose de très important. Parce que je pense que j'étais un peu chien fou sur pas mal de choses, avec l'envie de toujours...
Je communique, faut que ça sorte, j'y vais.
Oui, et puis de manière un peu générale, au-delà des sujets de com', c'était de se dire, il faut toujours sortir des limites, être un peu punk pour avoir des résultats, tu vois, pour secouer les choses. Et ce jour-là, j'ai compris que oui, il fallait bien sûr toujours avoir envie de bouger et qu'il n'y a rien de plus chiant
et étonné, mais
etc.
Pas.
Mais qu'il y a quand même un certain nombre de choses sur lesquelles... Eh bien, ça n'est pas intelligent, ça n'est pas intéressant, mais au contraire, on détruit quelque chose, notamment pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent. Et je trouve que se dire que l'audace est hyper intéressant et c'est bien et il faut vraiment toujours péter les choses, mais avoir un regard de responsabilité sur ce que l'on fait, eh bien, ça rend les choses parfois plus compliquées, mais aussi plus intéressantes pour soi et pour les autres. Donc voilà.
Ça m'amène à une réflexion sur la radicalité qui peut être prise. Ben, on s'appelle pas 40 nuances de Next Point, il y a deux revers toujours à une même médaille. Mais c'est vrai que souvent, on a dit qu'il fallait être clivant pour faire parler de soi, de sa boîte, et embarquer en fait les premiers bêta-testeurs, les bêta-users, et créer ce sentiment de communauté un peu dure, un peu combative, pour sortir du lot. Est-ce que c'est toujours le cas, toi qui grenouille dans l'écosystème, qui doit voir passer, je pense, le plus grand nombre de start-up tech en France et au-delà? Est-ce qu'il faut encore cette radicalité ou est-ce que ça s'apaise et ça s'équilibre un peu?
Alors, moi, je pense que la radicalité, c'est pas montrer son cul sur des bannières. La radicalité, c'est avoir une conviction, un combat... et aller jusqu'au bout pour faire exister. Donc, si tu veux, c'est là où... Et moi, c'est ce que j'aime dans la tech, parce que c'est une forme d'entrepreneuriat où les gens, ils sont pas simplement là pour faire du business, se faire acheter, mais il y a toujours une espèce... Il y a une flamme, quoi. Tu vois, les mecs qui réussissent, ils ont la flamme dans les yeux. Ils ont les yeux qui pétillent. Et c'est ça, cette radicalité. C'est ce moment où on se dit... La situation telle qu'elle est n'est pas acceptable et du coup je ne peux pas l'accepter. Et ça, c'est une très belle radicalité. Si tu veux, c'est la radicalité des poètes, c'est la radicalité de Rimbaud. Ça, c'est intéressant. Alors, je suis pas en train de dire que tous les start-upers, les gens de la tech sont des poètes, mais c'est là où il y a quelque chose qui fait bouger.
Il y en a qui nous ont fait quelques vers ici à ce micro aussi.
Voilà. Oui. Mais c'est ça la radicalité, parce que d'une certaine façon, c'est d'injecter une forme de politique, mais au sens noble, dans la façon de faire du business.
L'envie d'avoir un impact sur le monde
et
qui
alors
nous
après,
entoure.
Pour moi, la radicalité, c'est pas, sous ta poêle ou des trucs comme ça. Ça me fait beaucoup rire et j'adore ça et c'est très bien. Mais je pense que ce sont deux sujets un peu différents, voilà.
On fait quoi comme visuel pour annoncer notre partenariat?
C'est toi et moi sur une péniche au JO, non?
Ne dépassons pas les codes. Hein. Faisons attention, j'ai peur maintenant. J'ose plus communiquer.
Non mais attends, je vais te raconter un truc quand même, c'est à propos de radicalité. En fait, il y a quelques temps, on m'avait demandé, c'était pour le mois des fiertés, de dire bah, c'était quoi moi ma plus grande fierté en tant que gay. Et j'ai fait une photo où je suis en costard, tu vois, business, et je porte des super bottes paillettes de drag queen. Voilà. Et cette photo, il y a plein de gens qui m'ont dit ah mais c'est dingue, c'est super, etc. Et c'est une photo que moi j'aime beaucoup parce que je pense qu'elle
raconte. J'adore ses bottes.
J'adore ses bottes. D'abord j'adore ses bottes. Et puis surtout j'aime bien cette tension entre un monde du business, tu vois, un peu corporate, etc. Et puis un truc qui est plus personnel, qui est fou et qui est très 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 inattendu. Et je pense que c'est ça qui est intéressant dans la tech et c'est ça qui fait avancer les choses.
Question rapide, réponse rapide, éventuellement je te relance. Dernier gros coup,
c'est clairement Elon Musk à Vivatech en 2023.
J'aurais pu mettre des bruitages de fans parce que j'y étais. Alors, je te cache pas qu'on a attendu très longtemps.
Un peu trop longtemps.
Et que j'aurais préféré aller me balader dans les allées, voir plein de bois. C'était un peu long.
Je sais.
Mais ouais, effectivement, énorme coup pour Vivatech. Ça a été compliqué de l'avoir?
Écoute, ça a été quelque chose, ça a été un travail de très, très, très longue haleine. Ça a été fait avec beaucoup, beaucoup d'audace et d'assiduité par un grand monsieur qui est Maurice Lévy, qui est un des deux présidents de Vivatech.
Ouais.
Et vraiment,
exactement.
Et je lui rends hommage parce que c'est lui qui a fait ce travail. Et après, on en a discuté.
Anne-Sophie Lapix, c'est arrivé après ou c'est
elle
parce
est arrivée
qu'il venait
après.
En France?
Elle est arrivée okay. après. Et franchement, je pense qu'on a tous été, et moi le premier, complètement, quand on a su que c'était vrai, ça y est, il allait venir. Waouh, enfin franchement, je l'ai dit, c'est comme d'avoir les Rolling Stones et Lady Gaga en même temps. C'était assez un truc.
Et le message qui annonce qu'il est OK pour venir, c'est quoi? C'est un plus court qu'un tweet? C'est une joke dans un tweet? Ça ressemble à quoi?
C'était un échange de mails, voilà. Et pour la petite histoire, après j'ai demandé à Maurice Lévy, mais bon, à la fin, comment vous avez fait pour l'avoir? Enfin, comment ça fonctionne? Voilà. Et il a eu une super réponse. Il a dit pendant un an, j'ai considéré que non n'était pas une réponse.
No wasn't an answer. Quel est le prochain entrepreneur où le non n'est pas une réponse entendable?
Alors,
je suis sûr que vous avez votre top 3, votre top 5, où vous dites ces 5-là, il nous les faut à Vivatech.
Mais j'en ai plus que 5 parce qu'il y a des gens extraordinaires. Mais je ne dirai rien, même sous la torture.
Je te demande
qui sont
les prochains qui ont dit oui.
Oui, mais si, c'est ça la question à la fin.
Ah non, vraiment. Non, tu te mets un peu en risque et tu me donnes, je sais pas, un top 5, un top 10. Et on se voit dans... Tous les ans, on va faire comme le baromètre. Et lui, est-ce qu'il a dit oui? Et lui, et lui, et lui?
Non, alors... moi, je rêverais un jour d'avoir, par exemple, Steven Spielberg. En fait, je rêve d'une discussion entre Steven Spielberg et Yann LeCun sur l'intelligence artificielle. D'un côté, Spielberg qui, avec AI, a ouvert ce que ça voulait dire. Et je pense qu'il a créé quelque part un peu cette image qu'on a aujourd'hui, en plus une image positive, extrêmement poétique. Et d'avoir quelqu'un qui, aujourd'hui, l'a fait pour de vrai, je veux dire, avec des 1 et des 0, avec des choses qu'on connecte, avec Yann LeCun. Voilà, ça, c'est mon rêve. Donc, si tu me dis c'est quoi mon truc, c'est ça que, si on fait ça, je serais assez content. Mais attention, j'ai pas dit que Steven Spielberg viendrait parler avec Yann LeCun à Vivatech en 2024.
C'est trop tard, c'est tweeté. Dernier, Ego Trip.
Bah écoute, ça va, je pense que c'est encore gérable. On a, tu sais que le Japon est Country of the Year à Vivatech cette année, voilà. Et j'avoue que quand ça s'est fait, j'ai reçu un message du ministre de l'économie du Japon pour nous dire qu'il était ravi que le Japon soit le pays à l'honneur de l'année à Vivatech. Et j'avoue que j'ai eu un moment d'ego trip assez marqué, voilà.
Comment on choisit le pays de l'année? Est-ce que c'est parce qu'il y a, je sais pas, une boîte qui s'illustre là-bas? Est-ce que, et on essaie de toucher toutes les zones géographiques d'un point de vue un peu strat aussi?
Alors, c'est très... en fait, on a une carte et on jette des fléchettes et puis on voit où ça tombe. Non, c'est pas du tout comme ça. Il y a plusieurs choses. Déjà, ce qu'on regarde, c'est des pays qui ont une belle histoire d'innovation. Donc, on a eu l'Inde, on a eu la Corée, on a le Japon cette année. Si tu veux, c'est quand même des pays sur la scène internationale. Tu te dis, voilà, ils ont des choses à nous raconter. Il y a des belles entreprises. Voilà, il y a cette espèce de magie de l'innovation made in le pays en question. Donc, ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, il faut des écosystèmes start-up, tech digitaux, qui sont intéressants, qui aient envie de se connecter avec nous, avec l'Europe, pour faire des échanges, du business. Et ce qu'on aime bien, c'est des modèles qui sont, si tu veux, qui sont différents, parce que ça permet de montrer aux gens que la tech, le digital, c'est pas monolithique, mais au contraire, bah voilà, il y a plus de champs que ce qu'on imagine. Et puis le troisième sujet, bah ça, c'est quelque chose d'assez personnel, mais on veut et on aime que ce soit un pays sur lequel va y avoir un échange culturel. Enfin, tu vois, ce qui est extraordinaire avec le Japon tout de suite, c'est la culture, c'est le manga, c'est la musique, c'est la beauty tech, c'est la nourriture, c'est la gastronomie. Et ça va être génial, parce que toi aussi, quand je te dis le Japon, tu dis
ça brille.
Le Japon à Vivatech, mais ouais. Génial, bien sûr.
Et c'est une question où j'ai pas la réponse, donc je la pose. Quand on s'intéresse justement à la culture d'un pays comme ça, est-ce que on arrive à déceler dans l'approche qu'ils peuvent avoir de la tech, de la concevoir et des utilisations finales qu'ils proposent, de faire le lien avec la culture d'un pays comme ça?
Écoute, moi je suis pas suffisamment, tu vois, par exemple spécialiste de la Corée ou de l'Inde ou du Japon pour déceler ce genre de choses, mais tu vois quand même des particularismes. Tu vois, par exemple, ce qui est très intéressant, c'est l'Inde. Par exemple, ils ont pas TikTok. Un jour, ils ont décidé que TikTok et tout ce qui venait de Chine, ils mettaient une sorte de veto dessus. Tu vois, ce que je trouve intéressant, c'est que ils nous disent que c'est possible. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, mais en tout cas, ils nous disent que c'est possible.
Ils le font pas forcément par culture, ils le font
non.
Peut-être aussi par
pour des raisons, pour mais aussi parce que culturellement, ils ont aussi cet antagonisme avec la Chine ou des choses comme ça.
Je veux pas te créer de problème avec des gens de la tech, mais d'ailleurs, tu disais l'importance de l'éducation et une newsletter chez Feuille Blanche s'appelle Les Nouveaux Narrateurs, où on fait plancher les entrepreneurs du Next 40, FT 120 sur un mot. Et on avait eu Philippe Corot de Miracle, qui alors, lui, il avait choisi l'IA, il avait un peu triché. Mais il racontait justement que TikTok ne distribuait pas les mêmes contenus aux enfants en Chine, où c'était très éducatif, qu'aux enfants européens ou US, où là, c'était plus du divertissement pur. C'est un vrai sujet. Enfin, tu parlais des implications dans nos vies quotidiennes de la tech. C'est aussi des enjeux géopolitiques.
Ah, c'est des enjeux géopolitiques. C'est des enjeux aussi extrêmement importants. Je crois qu'il y avait une étude qui était sortie que des enfants qui sont devant des écrans très tôt, à partir de 2 ans, le développement
le cortex,
de leur cerveau,
ouais.
C'est-à-dire d'un point de vue physiologique, n'est pas le même que des enfants qui ne sont pas devant des écrans. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça va chercher très loin, tu vois, c'est pas du tout anodin. Alors après, est-ce qu'il vaut mieux avoir un cerveau d'enfant qui a été devant ou pas, tu vois,
que pas de
cerveau. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on est toujours aussi dans des
moments.
Oui.
Moi, j'ai grandi avec les écrans et j'interdis à mes enfants de regarder les.
Mais je vais te raconter un truc de vieux, parce que moi, il y avait pas d'ordinateur, mais il y avait la télé et il y avait tous les débats sur les enfants qui regardaient la télévision,
qui jouent aux jeux vidéo,
ils sont décérébrés, etc. Moi, j'ai regardé la télé mais comme un porc quand j'étais un jeune et un ado. Et aujourd'hui, j'ai pas l'impression d'être la lead de la société. Donc, tu vois ce que je veux dire, c'est faisons attention aussi.
Ne faisons pas des grandes généralités.
Voilà, les anciens qui jugent les modernes, etc. Par contre, ce que je trouve à nouveau très intéressant, c'est de se dire, posons-nous les questions. Si on considère aujourd'hui, d'un point de vue politique, sociétal, que TikTok, ça pose un problème pour les enfants, bah, à ce moment-là, il faut qu'on en tire les conséquences. Mais on peut pas juste être des poulets qui courent avec la tête coupée. Tu vois ce que je veux dire? Il faut aller jusqu'au bout de nos... voilà. Donc, si les gens considèrent que c'est pas bien...
Mettons ça dans les sujets de débat pour les élections européennes. Voilà.
Bah, comme exactement. Comme ça, on a bouclé la boucle.
Plus grosse fois, je sais pas si c'est la première, la dernière, donc je vais dire la plus grosse fois, tu t'es dit « qu'est-ce que je fous là ?»
Ah, je pense vraiment, c'est quand on a ouvert les portes de Vivatech, que j'ai vu arriver tout ce monde, parce que moi, c'était la première fois en juin dernier, et je me suis quand même dit « waouh, ce truc !»
Mais en mode « est-ce que je vais être à la hauteur ?»
C'est en mode, tu sais, tu vois une méga vague qui arrive et tu te dis « est-ce que je veux vraiment me prendre cette vague? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? »
T'as pris ton surf.
J'ai pris mon surf et mon maillot de bain. Et j'avoue que ça a été un des plus grands plaisirs de ma vie. Donc, c'était bien que je sois là, en tout cas pour moi. Voilà.
Allez, une dernière pour la route. La dernière nuit blanche de François Bitouzet.
Écoute, ma dernière nuit blanche, c'était il y a un mois dans un lieu que j'aime beaucoup qui s'appelle Le Secret. C'est un cabaret queer qui fait des choses absolument géniales.
Où ça, tu dis ?
C'est le Secret.
Excuse-moi.
Et c'est le nom du lieu. Ça a lieu une fois par mois à peu près. C'est très radical. Tu parlais de radicalité, et là, c'est une belle radicalité de gens qui se mettent, comment dire, en danger dans leur capacité à aller au bout de leur art, de leur vision. Et c'était une super nuit blanche que j'ai aimée.
Eh ben, moi, j'ai aimé ce temps passé ensemble, François. On s'était dit 20 minutes. Je crois qu'on a largement dépassé. Je vois tout le monde qui me dit oui, effectivement. C'est un plaisir. À minima, on entendra à nouveau ta voix dans ce format à travers les questions que tu poseras aux entrepreneurs. Et au plus tard, on se voit à Vivatech.
Merci beaucoup. Merci.